Au Capi Service, le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Capi.
En RDC, le ministère du Tourisme a lancé depuis le mois de mars dernier la numérisation des données artistiques et touristiques. Il s'agit selon le ministère d'un vaste projet d'informatisation des procédures pour l'exercice des métiers liés au secteur du tourisme. À quoi consiste exactement cette numérisation? Quel est l'impact de cette opération dans l'assainissement du secteur du tourisme en RDC? Je le disais, nous avons pour invité Monsieur Thomas Avulamombo LP Mengongo, il est directeur des agences de voyage et associations touristique au ministère du Tourisme. Vous avez des préoccupations, vous êtes intéressé par ces sujets, vous avez des questions à poser. Le numéro d'appel, c'est le 099-706-6394. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiocapi.net. Voilà. Monsieur Thomas, la numérisation du secteur du tourisme en RDC a été lancée depuis le mois de mars dernier. On aimerait d'abord savoir à quoi consiste cette opération de numérisation. Quand on parle de numérisation du secteur du tourisme, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là?
Oui, merci. Merci, monsieur Marcel, pour cette opportunité que vous me donnez pour parler de la numérisation dans le secteur du tourisme. D'emblée, je voudrais vous dire que la numérisation est une vision.
Oui.
Une vision d'une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est parmi les objectifs assignés par le gouvernement au travers, c'est-à-dire à partir des départements sectoriels, chaque département est appelé à bien justifier la bonne gouvernance. Et quand je parle, dans un premier temps, de la vision, il faudrait comprendre que la vision en soi, c'est une pensée, c'est un mode, c'est une pensée, c'est une perception de la chose. C'est-à-dire, la vision ici, de part, quand nous parlons de la vision, nous voyons aussi un visionnaire. Et ici, il n'y a pas de quoi se gêner. Il y a un visionnaire, c'est le ministre du Tourisme, son Excellence Franck Mouedi. Lui, il a conçu, au regard de tout ce qu'il a eu à dégager comme problème au niveau du secteur, il fallait qu'il réponde, n'est-ce pas, qu'il apporte la thérapeutie à la bonne gouvernance. Et il a pensé, il a conçu, il a pensé innover, créer. Et ça doit partir d'une vision. Il a conçu un mode de gestion rationnel, efficiente, efficace, dans la collecte de recettes, devant concourir à la bonne gouvernance, puisqu'il y a un problème en soi, le problème de coulage, ça c'est connu de tout le monde, oui. Coulage des recettes. En tant que manager en soi, il devrait être au-dessus de cette perception pour se dire que faire naturellement pour permettre à l'État congolais de bénéficier de toutes ces ressources. Aussi, rapprocher davantage, n'est-ce pas, les participants qui sont les fonctionnaires ou la population à jouir de ces ressources.
Voilà, justement, et c'est ça la question principale, cette numérisation va consister à quoi?
Et cette numérisation-là consiste à la dématérialisation des procédures et des documents.
Oui.
Et cela, ça se fait à l'aide de l'identification naturellement des partenaires. Quand nous parlons de partenaires, il faut voir tout, n'est-ce pas, les sujets ou les structures qui concourent naturellement à la performance ou à la matérialisation de la vision. Et là, nous voyons les agences de voyage,
oui.
Nous voyons les compagnies aériennes, et ce sont ces gens-là en soi qui concourent à la matérialisation, à la réalisation de cette vision. Donc, vous allez comprendre que cette vision, elle n'est pas seulement, n'est-ce pas, elle est là, et là aussi, c'est un aspect innovateur.
Oui, mais vous allez, il faut que, pour ça, les auditeurs à comprendre, vous allez travailler avec des agents de voyage, vous allez travailler avec les compagnies aériennes, et qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dégagé comme problème qui a fait qu'il n'y avait pas de bonne gouvernance, et maintenant, avec la vision du ministre du Tourisme, comme vous l'avez dit, il aura maintenant une autre façon de travailler. Par exemple, qu'est-ce qui est passé avec les agences de voyage, comment on travaillait avant, et comment avec cette numérisation, les choses vont changer?
Vous savez, jadis, tout se faisait au manuel. Oui. Et ici, dans la vision, il faut dématérialiser, c'est-à-dire transformer ou retirer le caractère matériel ou physique en soi des procédures et les rendre immatérielles ou non physiques. Et cela, il faut introduire une innovation, une donnée informatique. Et on a introduit d'abord, hein, vous allez observer qu'avant, il y avait trop de tracasseries, il y avait une longue procédure, il y avait la lourdeur dans la procédure. Et avec l'introduction de la numérisation par le ministre, ça simplifie.
On a commencé par répertorier, si je comprends bien, d'abord toutes les agences de voyage.
Exact, oui. Toutes les agences de voyage. Et moi-même, je suis le directeur des agences de voyage. Exactement. J'ai dû contribuer efficacement et je suis obligé de contribuer dans l'identification. Donc, dans cette identification, on a répertorié toutes les agences de voyage. Naturellement, il y a d'autres qui naissent aussi.
Oui.
Et de cela, quel était le problème en soi? Pourquoi l'État n'arrivait-il pas à pouvoir maximiser ses satisfactions? Il fallait réfléchir sur ces causes.
Oui.
Ainsi donc, on a pensé qu'il y a eu trop de tracasseries, il y a eu l'argent qui devrait entrer dans le trésor, servait peut-être à des proches et des hommes. Et il fallait créer un mode de gestion. C'est pourquoi je parlais d'une vision, un oui. mode de gestion rationnel, efficient, efficace, qui permettait de collecter cette redevance-là à bon escient. Et il fallait faire participer naturellement les opérateurs qui sont des partenaires. Il fallait appuyer, c'est-à-dire approcher les compagnies aériennes, parler aux opérateurs qui sont les agences de voyage et autres,
oui.
parler à leur regroupement, tout ça, c'est les suites. Le ministre est passé par tout cela. Il a eu à prendre des contacts. Il a expliqué le pourquoi. Voilà, avec ça, on n'aurait plus à déclarer manuellement par une télédéclaration en ligne. Tout de suite, là, on peut avoir les données dont on a besoin. Et cela, c'était tellement pertinent que les partenaires ne pouvaient que se réjouir de cela. Et vous comprenez que là, on a réduit aussi le temps. Le temps, c'est un facteur très rationnel, un facteur de valeur. Alors, quand on traite, on répond au quotidien et en temps réel, on répond à un besoin. Vous comprenez que là, les choses sont facilitées. Ça a beaucoup facilité. Ça a permis à l'État de rentabiliser les satisfactions. Ça a permis aussi aux opérateurs de l'autre côté de se sentir lésés et souples, tout ça. Et le business trouvait
les... Ça dit qu'avec le partenaire du secteur du tourisme, c'est-à-dire les agences de voyage et les compagnies aériennes, c'est-à-dire que vous avez formatisé toutes les données de manière à ce que tout ce qui se passe au niveau des agents de voyage des compagnies aériennes, au moins les ministères du tourisme, c'est suivre cela.
Oui, puisque la numérisation en soi ne se limite pas seulement à la télédéclaration en ligne.
Oui.
La numérisation procède aussi à la demande des documents d'exploitation.
Oui.
C'est-à-dire, au travers du logiciel, on a la possibilité de connaître que tel a payé ça, ça, ça,
oui.
et on se contrôle aussi. Et cela, vous comprenez que... Et ça nécessite aussi un certain nombre de préalables. Il faut former, c'est-à-dire formaliser
oui.
le secteur. Il faut aussi, naturellement, au-delà de ça, rapprocher l'administration à l'évolution du monde.
Mais quand vous dites formaliser, il y avait des agences de voyage qui travaillaient aussi dans l'informel, qui n'étaient pas reconnues au nouveau ministère du Tourisme.
Naturellement, il ne manque jamais des clandestins. Vous savez, c'est ça le grand problème.
Oui.
C'est ça le grand problème. Et nous avons aussi l'obligation de pouvoir sensibiliser. C'est-à-dire approcher davantage ces opérateurs pour qu'ils comprennent mieux la pertinence de cette vision-là. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, à ce stade d'aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait de fond en comble avec les opérateurs, les partenaires, au point où maintenant, les compagnies aériennes sont les premiers assujettis à pouvoir, n'est-ce pas, procéder à des télédéclarations directement. C'est-à-dire, ils collectent la redevance et ils font en temps réel. Et il y a des déclarations qui se font.
C'est-à-dire qu'au même moment, au niveau du ministère du Tourisme, vous savez suivre tout cela au même moment.
Absolument, absolument. C'est-à-dire en temps réel. Il n'y a rien qui peut facilement échapper. Donc nous sommes... C'est ça la bonne gouvernance. Vous comprenez, il y a de quoi apprécier la vision. Et le visionnaire aussi. Puisqu'il n'y a pas de quoi se gêner pour ça.
Et aujourd'hui, c'est un processus... vous avez commencé avec les agences de voyage et les compagnies aériennes.
Oui.
Et vous êtes déjà pour les agents de voyage à travers tous les pays, bien seulement à Kinshasa pour l'instant.
Vous savez, la phase expérimentale, ça doit partir de quelque part.
Oui.
Nous avons commencé avec Kinshasa et nous sommes en train de nous étendre vers toute la République. Donc c'est progressif. C'est un processus et c'est progressif, donc ça ne peut pas être tout de suite tout ça. Nous avons commencé l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes à l'an 1. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas terminer toute la République en un jour.
Mais par rapport aux agents du voyage, par rapport à la télédéclaration, vous pensez qu'il a déjà un impact?
Absolument. Je dois vous dire qu'on ne peut pas avoir une vision d'une bonne gouvernance sans pour autant viser cela ou ça.
Un impact chiffré.
L'impact chiffré.
Un impact chiffré.
Je vais vous dire tout de suite d'emblée, réalisez-vous. Avril 2017.
Oui.
Et avril 2017, on a fait des recettes de 61 000 à peu près dollars. En avril 2018, on a fait plus de 192. Donc, quand vous voyez, vous observez, il y a un taux d'accroissement de plus ou moins 350%. C'est apprécié.
Donc, c'est des recettes qui, avant la numérisation, échappaient aux caisses de l'État.
Absolument.
Monsieur Thomas, à vous la Mombo, LP, Mongongo, votre nom, c'est pas facile, on va vous retrouver tout à l'heure. C'est une émission interactive en direct, là, des auditeurs qui sont déjà en ligne pour intervenir. Je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, nous parlons de l'importance de la numérisation du secteur du tourisme en RDC. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à composer les 099-706-63-94. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiocapi.net.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Julien Kabina nous appelle du Kananga, Kachai et à Kanyoka. Julien Kabina, vous nous appelez du Kananga. Bonjour Julien.
Bonjour chers journalistes de la Radio Capi. Nous sommes très contents du sujet et la thématique que vous avez annoncé aujourd'hui par rapport à la numération. Non seulement l'impact qui parle de la bonne gouvernance, mais aussi le type de croissance sur ce que l'État peut réaliser en termes de voyage. Vous avez parlé des éléments sur lesquels enregistrement des voyageurs. Vous avez donné même des statistiques pour les mois d'avril. Vous avez montré combien les taux d'accroissement est en train de donner un pourcentage un peu allégé par rapport à votre étudiant. Mais notre inquiétude, on se base sur, vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a l'enregistrement des sites des agences de voyage. Nous sommes d'accord par là. Mais pour les voyageurs privés, il y a des voyages qui se passent, qui se font dans l'intérieur du pays, avec des engins, pas seulement les agences de voyage, mais les voyages personnels. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à la numérisation? Et aussi, ça nous aide à avoir des données à tout moment sur base des tourismes et des voyages compte tenu de ce que vous nous avez annoncé aujourd'hui. Et nous sommes contents de dire que la République, de dire que la division des tourismes, le ministère du tourisme, a un œil vigilant sur les voyageurs. Quel est alors, dit-on, quelle est alors encore la possibilité qu'apporte cette situation à la situation actuelle que notre pays est en train de vivre? Est-ce que c'est dans l'idée de développement? Est-ce que ça c'est pourquoi? L'idée est conçue pourquoi? C'est pour améliorer la condition de vie, parce que nous sommes en train d'attendre vers les élections. Est-ce que ça encadre encore avec ce que nous sommes en train de vivre, M. Président? Si seulement c'est dans l'idée, l'invité t'a encore nous retracé en quelques mots. Combien et pourquoi, sur quoi ils se sont basés, comment pour dire que non, nous devons numériser
le secteur du tourisme. Merci Julien Kabina d'avoir appelé de Kananga. Kachai, vous êtes à Kanyoka. Bonjour Kachai. Bonjour Kachai depuis Kanyoka.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Oui, merci beaucoup de la parole que vous m'accordez, monsieur le journaliste. Je suis très intéressé par le sujet du jour sur la numérisation des tourismes en RDC, l'arrêté signé par le ministre. Parce que l'invité a insisté sur la bonne gouvernance. Par bonne gouvernance, j'entends aussi les modes de gestion et de contrôle dans la transparence et la gestion des recettes. Alors, j'aimerais tout simplement d'abord demander à l'invité qu'est-ce que le ministre a voulu exprimer dans cet arrêté-là en numéralisant à l'écurisme. Parce que je n'ai pas bien compris ce terme-là numérique. Bon, l'invité a parlé, mais nous n'avons pas bien pigé l'importance de ça. Et aussi, en prenant l'arrêté par le ministre, quelles sont les garanties que l'arrêté a apporté dans le secteur des tourismes? Pour citer, ici, à Kananga, dans le Kasaï central, le gouvernement Kambay a voulu faire du village Moukamba un site touristique. Mais voilà que vous avez commencé par dire, c'est l'invité, il y a certaines agences de voyage qui œuvraient dans le secteur informel, c'est-à-dire ils échappaient au contrôle de l'État. Alors je ne sais pas par rapport à l'esprit, à l'initiative du gouvernement provincial ici, en particulier le gouvernement provincial du Kasaï central, pour ne pas donner seulement la situation géographique de la province, comment ils peuvent, à l'aide de cette nouvelle loi,
oui,
maximiser les recettes pour que ce site-là soit normalement un site qui répond aux conditions normales qui répond aux conditions normales des tourisme, on voulait dire.
Merci beaucoup, Kachai, depuis Kanyoka. Jonas Kabinda, vous êtes à Kananga. Bonjour, Jonas.
Bonjour, Radio Kapi. Bonjour à l'invité.
Bonjour, mon.
On vous écoute, Jonas. Quelle est votre question?
Merci. J'ai quelques préoccupations. J'ai entendu l'invité insister sur la numérisation du système touristique. Bon. Comme pour dire que ça va maximiser les recettes et puis c'est aussi un mode de bonne gouvernance. Bon, je vais commencer par poser la question à l'invité. Qu'est-ce qu'il reprocherait au premier mode avant cette nouvelle approche qui va être mise en place? Qu'est-ce qu'il reprocherait à ce premier mode-là? Et donc, avec ce système-là justement qui était manuel, n'y avait-il pas de gouvernance? Comment le ministre avait-il géré les cas, par exemple, de ceux-là qui confèrent à la mauvaise gouvernance? Donc, et en plus, je vais un peu lui poser une autre question. Pour dire qu'est-ce qui lui garantit la fiabilité de la numérisation du système touristique? Dès lors qu'on sait qu'actuellement, avec le système informatique, il y a beaucoup de piraterie. Et une autre préoccupation peut-être profiter.
Oui.
Ce matin, j'ai entendu le conseiller du ministre, plutôt le conseiller du chef de l'État, le professeur Luzolo Bambi, décrier le niveau de la corruption dans notre pays. Est-ce que, avec la numérisation du système touristique, ça contribuerait tant soit peu à la lutte contre la corruption? Ce sont là les petites questions que j'avais à poser à l'invité. Merci beaucoup.
Voilà, merci Jonas Kabinda d'avoir appelé de Kananga. Je reviens à notre invité. Hein. Vous avez suivi tour à tour Julia Kabinda qui est appelé de Kananga, Kachai qui est à Kanyoka et Jonas Kabinda qui est à Kananga. Pour l'essentiel de préoccupation de Julien Kachai, si j'ai bien compris, ils aimeraient bien comprendre et comment va fonctionner vraiment ce système de numérisation et quelles sont les garanties par rapport à cette opération de numérisation, bien ces systèmes de numérisation pour vraiment garantir une bonne gouvernance. Et vous avez également suivi Kachai, lui, il a plutôt insisté sur le mode de gestion et contrôle de cette numérisation et également sur les garanties que cela va apporter et dans les secteurs du tourisme. Et si également, avec cette numérisation, vous pensez que c'est une façon également de lutter contre la corruption?
Oui, et je vais apaiser les préoccupations ou nos interlocuteurs au regard de leurs questions. La première des choses, lorsqu'on essaie de combattre le coulage des recettes, lorsqu'on essaie d'éradiquer le coulage des recettes, c'est déjà une forme de lutte contre la corruption. C'est-à-dire, ceux qui étaient entrés dans les poches des hommes ou des gens ne vont plus entrer dans les poches, ça va entrer dans leur compte du trésor public. Donc là, l'État va bénéficier de ce qui lui revient. Et à Paris-Cochet, vous devez comprendre que le tourisme gère les fonctionnaires. C'est-à-dire, en termes, par exemple, d'une rétrocession ou d'une prime, ça doit monter, ça doit augmenter. C'est-à-dire, il y a amélioration du social de travailleurs. C'est-à-dire, il y a un apport en plus. Au-delà de ça, c'est une collecte de fonds pour la promotion du tourisme. Il y a la création d'emplois. Il y a des emplois qui peuvent être créés au travers de cela. Lorsque, par exemple, on développe les statistiques, il y a l'afflux des touristes, il y a tout ça. Lorsqu'il y a afflux des recettes, il y a des recettes significatives, on peut être appelé à faire des projets, de créer des projets pour éliminer tant soit peu, n'est-ce pas, le chômage. Ça aussi, c'est un aspect contributif en termes de cette numérisation. Alors, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le ministre, qu'est-ce qu'il a reproché? Évidemment, on ne peut pas innover sans avoir observé quelque chose qui n'allait pas. Le ministre a compris qu'il y avait lourdeur. Je l'ai expliqué ici. Une histoire qui peut prendre 30 minutes. On doit prendre 2 jours, une semaine. Ça, c'est à l'ouvrir.
Et concrètement, quoi par exemple? Donnez un exemple concret.
Je donne par exemple, à l'époque, pour faire la déclaration en termes de quoi ça, déclaration pour la redevance, il a fallu attendre par exemple 15 jours que les agences de voyage viennent déclarer manuellement. Mais aujourd'hui, c'est au quotidien, à la seconde, en ligne, tout de suite, on a les recettes du jour. Donc vous comprenez, ce qu'on aurait pu attendre pour une semaine, on a la situation, le rapport en une seconde, en 2 minutes. Ça, c'est à féliciter, c'est capital, c'est vraiment positif. Donc il y a cet aspect de choses. Alors, que faudra-t-il faire? Il n'est pas dit que il faut être un homme du commun. En soi, un leader politique, comme le ministre du Tourisme, un manager avéré, il doit pouvoir sortir du commun pour savoir observer comme un aigle. Et comme je le disais tantôt, c'est une vision. En tant que vision, c'est une perception de l'aigle qui doit présenter quelque chose d'innovation. C'est-à-dire, il doit innover, montrer qu'il est distinct des autres. Il a créé quelque chose qui n'est pas. Et aujourd'hui, l'informatisation, c'est-à-dire tous les secteurs du tourisme, doivent subir cela. Et l'administration du tourisme doit s'approprier ça. C'est pour son bien-être. Donc vous comprenez à cela. Il a parlé, l'ami a parlé du site au niveau du Kasaï.
Mais vous n'êtes pas encore au niveau des sites touristiques pour la numérisation, vous n'êtes pas encore au niveau de sites. Hein.
C'est-à-dire, ici, comme je le disais, c'est progressif.
C'est-à-dire,
toutes les provinces, au jour d'aujourd'hui, sont déjà sensibilisées pour l'identification. C'est-à-dire, on va sillonner aussi dans la République pour former, montrer aux gens comment d'abord la chose fonctionne, former les gens localement, et aussi identifier tout ce qui revient en termes d'actes générateurs, c'est-à-dire tout ce qui revient ou qui peut concourir aux ressources.
Et là, par exemple, pour les gens qui veulent mettre en place de sites touristiques, on a parlé du camp du gouverneur Kambay-Bolchado, là, il doit s'intéresser à des gens au ministère, ou bien les gens qui sont intéressés peuvent déjà mettre leur site en place, puis le ministère, après que le ministère va s'en occuper pour la numérisation, ou bien il faut déjà, dès le départ, c'est tourné vers le ministère.
Bon, vous devez comprendre que de par la Constitution, il y a compétences limitées.
Oui.
Il y a la province à ce qui lui revient et le pouvoir central. Donc au niveau du pouvoir central, lorsque au niveau de province, il y a des actes qui sont posés, qui relèvent de la compétence du pouvoir central et le pouvoir central a une mainmise. Bien entendu, même au niveau de province, ils ont l'obligation d'un rapport pour que le pouvoir central puisse avoir, n'est-ce pas, les statistiques fiables, un répertoire naturellement national. Puisqu'on ne peut pas, pour connaître, n'est-ce pas, pour avoir la cartographie de la République, pour dégager tout ce que nous avons, le cadastre et tout ça touristique, on doit naturellement se fier des données des provinces. Donc les provinces ont l'obligation de pouvoir communiquer leur rapport au niveau du pouvoir central.
Je reviens à vous, le temps d'accorder la parole à notre auditeur qui est en ligne, Maître Gandou Gaston, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Gaston. Oui, vous êtes en ligne Gaston. Quelle est votre question par rapport à ces sujets, hein, sur l'importance de la numérisation du secteur du tourisme en RDC?
Bon, vous savez, et surtout chez nous, il y a la succession des personnes au niveau des institutions de l'État.
Oui.
Et chacun, lorsqu'il arrive, il vient avec sa touche, ou soit en termes d'innovation, ce qu'il a apporté par rapport à son moment. Mais je vous dis franchement que nous devons changer notre manière de voir les choses. Parce que il faut avoir un esprit de continuité des choses. Hein. Donc, vous continuez sur ce que l'autre avait fait parce que les projets, soit les actions se dressent dans le temps. Vous savez, lorsque vous parlez aussi des choses, il faut savoir bien expliquer les choses. Quand vous parlez des termes tels que l'immunisation du secteur et tout, il faut savoir aussi les expliquer. Si c'est pas le cas, c'est vraiment une manière de vouloir dire aux autres que je suis là, voilà ce que j'ai apporté. Mais j'allais vous dire que, vous savez, le secteur du tourisme chez nous, ça devrait aussi voir aussi l'aspect d'abord interne. Hein. Les Congolais devraient normalement, comme on voit dans d'autres pays, pendant des périodes données, aller contempler, aller respirer, aller voir des endroits qui sont appropriés. Hein. Par exemple, l'État, à mon avis, devrait avoir ces endroits-là pour que lorsqu'une personne vient, il paye, c'est tout ce que vous savez, des endroits pareils génèrent aussi de l'argent, dans l'hypothèse de l'État commerçant. Donc l'État commerce dans les endroits qu'il a aménagés lui-même. Que les gens peuvent... Mais les privés qui s'emploient aussi dans les domaines sont censés payer les impôts comme les commerçants. Dans les domaines de commerce, par exemple des transports qu'il est en train d'insister, je sais pas, mais moi j'ai effectué des voyages, je vous dis que c'est vraiment dommage dans notre pays lorsque vous voyagez. C'est là où j'allais dire que des fois je me pose la question. Nous avions étudié et nous savons comment est-ce que les choses devraient marcher. Mais ce que nous voyons sur le terrain, et nous-mêmes nous sommes aussi soumis. Hein, par exemple, ce qu'il faut débourser lorsque, par exemple, vous effectuez un voyage de Kinshasa à Idiofa. Donc il y a des barrières qu'on connaît, qu'il y a des barrières où les propriétaires de véhicules sont censés, et ça impacte aussi sur les prix de transport, sont censés verser quelque chose à n'importe quelle barrière, et cet argent-là entre dans les poches des gens. Pour moi, c'est pas vraiment ça l'importance. L'important, c'est que l'État ne s'investit pas à la matière. L'État n'a pas d'endroit où les gens peuvent aller. Et puis, les ressources, les moyens que possède la population ne permettent pas aussi, la mentalité même, l'éducation même, ne permet pas à la population de s'y employer dans les domaines. C'est vraiment, il faut faire beaucoup de choses pour que... Mais je veux que nous puissions commencer quelque part, c'est que l'État doit commencer à... Et puis la guerre aussi, hein, il faut retenir aussi. Lorsque les gens entendent qu'il y a des morts, il y a des épidémies partout, ils peuvent aussi, ça s'agit aussi. Il faut vraiment travailler là-dessus. Au lieu de parler
merci.
De parce que même la machine, vous savez que c'est une personne qui la manipule. Hein.
Merci. La machine, merci, maître Gaston Ngandou d'avoir appelé Kinshasa. Bodiko Zakari, vous êtes à Zongo. Bonjour, Bodiko.
Bonjour, Marcel. Bonjour, aussi à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute, Bodiko.
D'accord. Marcel, si vous permettez bien de pouvoir poser la question, une question directe avant de commencer d'intervenir à l'invité.
Allez-y.
Je voulais d'abord que l'invité puisse m'expliquer la durée, hein, l'arrêté du ministre a duré déjà combien de mois ou bien combien d'années. Je ne sais pas si ça a pris du temps. Si tu peux m'expliquer avant de... Je vais essayer de me dire la date qu'il a fait avant de faire mon intervention.
C'est depuis janvier 2017 que cette vision a été lancée. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018, donc pratiquement une année. Et le processus étant progressif, et c'est ça la situation.
Allez, votre question, mettons à Bodiko. Allez-y rapidement.
Merci, je voulais un peu m'étaler sur ce qui a dit l'invité. J'ai suivi l'invité. Vous savez, Marcel, nous avons un problème au Congo, nous devons le dire en face. Nous avons un problème des innovations, des arrêtés et des innovations. Comment? Vous vous rendez compte que le ministère du tourisme n'a pas évolué dans notre pays. Nous devons le dire en vérité. Ça n'a pas évolué. Comme dans mon coin ou dans ma province, je n'attends même pas... les bruits en ce qui concerne le ministère du tourisme. Vous rendez compte que le ministère national du tourisme va aller vite en besoin créer, prendre une arrêté pour l'animisation du secteur touristique. Non, c'est pas normal. En tout cas, je voulais un peu dire à l'invité que cet arrêté n'aura pas d'impact. Certainement, nous devons. Chaque ministère doit innover pour l'évolution du pays. Mais à ce stade-là, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de choses à relever d'abord sur le plan national, sur le plan des provinces. Je voulais aussi poser la question à l'invité. Est-ce que l'arrêté est seulement pour la ville de Kinshasa ou bien partout. Parce que si vous faites des rondes dans nos différentes provinces, vous vous rendez compte que le ministère du tourisme est chaotique vraiment. Ouais.
Merci Bodiko Zakaria depuis Zongo. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour Malonga.
Bonjour Marcel, bonjour notre invité.
Bonjour mon ami.
On vous écoute, Malonga, oui.
En tout cas, Marcel.
Oui.
J'ai beaucoup suivi l'invité avec l'attention. Bon, la numérisation des secteurs de tourisme, c'est bien comme l'invité vient de dire que c'est l'un des indices de la bonne gouvernance. Oui, effectivement. Parce que si on fait numériser tout ce qui se passe dans ce secteur-là, je crois que le trésor public et aussi la population aura quelque chose de là à l'avantage de la nation. Mais ce qui est là, vous voyez Marcel, je vais vous rappeler un peu. Vous voyez, nous avons le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, le PSP. Il y a un temps que nous avions passé dans des difficultés de ce ministère-là. Les élèves de 6e année présentaient les examens d'État. Recevront les résultats au mois de janvier, de février, de mars, tout ça. Mais lorsque le ministre, ce n'est pas important de citer les noms ici, était passé là, en tout cas, il a fait de tout son mieux pour que la situation actuelle se passe. L'examen d'État passe au mois de juin. En juillet, août, les résultats commencent à sortir. Vous voyez, c'est une innovation. Alors, comme ce ministère du tourisme, d'initier ça, c'est bon. Est-ce que le ministre, par son arrêté, il va vraiment mettre en place un groupe ou bien une commission de suivi pour établir en permanence ce qu'il a lui-même signé? C'est bon si on arrive à numériser ce secteur-là. Tout ce secteur-là, en tout cas, gaspille de l'argent beaucoup. Chaque autorité, si il se raconte avec un touriste comme ça, il donne de l'argent, il entre dans le pays avec ce document, il fait l'intérêt comme de qu'est-ce qu'on va le faire ce pays. Mais si c'est numérisé, vous verrez qu'en tout cas, les rapports et les éléments seront en plein en tout le monde.
Merci. Merci Malonga, on a compris votre préoccupation. Merci d'avoir appelé de Bandundouville. Gentil Lumanou, vous êtes à Kananga. Bonjour Gentil. Gentil Lumanou, essayez de vous déplacer un tout petit peu. Ah, là, on vous attend très mal. Là. Vous avez la radio allumée, si vous voulez bien fermer votre radio. Éloignez-vous et ou alors fermez plutôt votre radio, ça sera plus simple, Gentil Lumanou. Fermez votre radio et on pourra bien vous suivre, l'invité, bien sûr, pourra répondre à vos préoccupations. Vous nous appelez de Kananga. Gentil Lumanou, on vous écoute. C'est désagréable avec la ligne des Gentil Lumanou. J'espère qu'on va la retrouver avant la fin de cette partie interactive. Alors, vous avez suivi les différents intervenants par rapport à cette numérisation que les gens vraiment, encouragent hein, pour essayer un peu d'assainir les secteurs du tourisme en RDC. Mais la question également qui préoccupe les auditeurs, vous pensez que cette innovation, ça risquait pas de subir d'autres changements aussitôt qu'on changeait ministre à la tête du ministère du tourisme? Est-ce que vous pensez qu'il a des garanties pour que ce système dont vous parlez, de la vision du ministre actuel du tourisme, va perdurer hein, pour faire en sorte qu'on puisse continuer à faire, l'État puisse rentrer dans ses recettes hein, parce que la vision, en fait, c'est d'aider à ce qu'au niveau du tourisme, le recette de l'État n'entre pas dans les poches des individus, mais plutôt dans les caisses de l'État. Donc c'est par rapport à la pérennité hein, de ce système, de cette innovation. Il y a également quelqu'un qui a parlé de Gaston, je pense, qui pour lui aimerait en termes simples, si vous voulez bien expliquer cette numérisation en termes simples pour aider hein, les communs de mortels à mieux comprendre cela. Et ensuite, vous avez suivi également Boudico, pour lui, les secteurs du tourisme va très très mal.
Oui, c'est les intervenants de tout à l'heure ou les interlocuteurs de tout à l'heure ont posé des questions pertinentes. Je voudrais dans un premier temps dire ceci. Il n'est pas indiqué, puisque hier, on n'a pas bien travaillé Et aujourd'hui, on est à la tête ou on a la commande d'un ministère qu'on ne doit pas ou qu'on doit s'abstenir d'innover. Il y a Marx qui dit la science se fait en se défaisant. C'est-à-dire on refait ce qui a existé pour être plus performant. Donc, pour mon ami Julien, il doit comprendre cela, qu'on ne peut pas vivre un monde statique. Le monde est dynamique et tout doit bouger. Aujourd'hui, tout le monde a le souci de voir le tourisme congolais être à même être compétitif au regard de l'évolution mondiale. Comment devons-nous rendre ce tourisme compétitif si jamais nous ne devons pas innover? Et si nous devons rester statiques, c'est-à-dire tel que, c'est-à-dire vivre le commun. Ici, il y a lieu d'apprécier à juste titre la vision. Et j'ai dit, c'est une vision, c'est un mode de gestion. Ici, il n'y a pas question d'arrêter, c'est un mode de gestion. C'est-à-dire la manière de concevoir comment il faut éradiquer un système qui n'apportait pas, naturellement, bénéfice à la population, par exemple. Et il a parlé de l'EPSP, c'est tout à fait indiqué. Ici, nous sommes à l'an 1. Nous sommes au début d'un processus, d'une conception en termes de captage maximal de satisfaction, de recette.
Et un processus que les gens veulent bien comprendre, c'est-à-dire qu'il a commencé par répertorier
exact.
Tout ce qu'il y a comme agence de voyage, oui. Tout ce qu'il y a comme compagnie aérienne, et vous avez tout informatisé, oui. De manière à ce que tout ce qui se faisait manuellement puisse se faire de façon informatisée, oui. Et au niveau du ministère, on a un regard de contrôle par rapport à tout ça.
Oui, je vais vous dire, mon ami Marcel, oui. Imaginez-vous le ministre à l'avènement au ministère, il constate qu'il y a par exemple 100 agences de voyage.
Oui.
Mais à peine 3 mois, il a répertorié 300 agences de voyage, au niveau de la ville simplement.
Donc au moins 200 travaillés...
200 travaillés clandestinement. Et il met mécanisme de pouvoir ne pas faire échapper cela. Il faut féliciter cela. Et aujourd'hui, je vais vous rassurer, vous dire que aucun agent du tourisme ne pouvait toucher au-delà de 100 000 par exemple francs congolais, une prime. Mais aujourd'hui, grâce à ce monde de gestion, à cette vision là,
c'est recette qui ne chappe pas à l'État. L'État congolais peut, donner des primes à ses agents.
Exact. Alors, et oui. Vous allez observer que les fonctionnaires étaient souvent clochardisés, étaient vraiment chosifiés. Et aujourd'hui, les travailleurs, les fonctionnaires ont repris courage de pouvoir être assidus au travail, tout ça. Donc, ici, il faut comprendre que le monde est en dynamique. Le tourisme doit s'adapter à l'évolution pour être de plein pied à l'économie numérique. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de papier en désordre, tout ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis avec vous. Hier, c'était le téléphone, là-bas, les cabines, tout ça. Aujourd'hui, on prend le téléphone, on appelle tout de suite. Donc, il faut comprendre cela de cette manière. Il y a une dame qui parlait là de voyageurs privés, tout ainsi de suite. Nous avons un système de manifeste fly. Aujourd'hui, on fait la déclaration des passagers embarquants. C'est-à-dire, une compagnie, lorsque vous embarquez autant, vous déclarez autant. Rien ne va nous échapper. Vous comprenez? Alors, si vous volez et nous, vous dégagez le manifeste, quel est cet avion qui peut voler sans manifeste? Et nous nous en tenons au manifeste fly. Vous comprenez que, c'est-à-dire, nous avons mis des mécanismes pour bien capter les recettes. Ici, il y a un problème. Mon ami a parlé ici, il dit, voilà, il parle de la pérennité du système, tout ainsi. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a une vision, il faut accepter de s'approprier la vision. Souvent, les gens aiment créer d'autres visions dans une vision. Le ministre a une vision. Nous devons nous approprier, nous greffer sur sa vision. Et non créer des visions dans la vision. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut comprendre ici que ce système doit aller de l'avant. Et puis, aujourd'hui, le ministre a créé. Ils apprécient tout ce que ça fait partie de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui générait que cette numérisation puisse s'étendre dans tous les secteurs, afin de pouvoir capter. Vous savez, un homme est celui qui a le courage d'apprécier des valeurs dans l'autre. Lorsque vous voyez que l'autre pose des actes positifs, il faut savoir dire que ça vaut la peine de l'imiter, ça vaut la peine de s'approcher pour mieux comprendre.
Il y a également un auditeur qui a cherché à savoir, ça a commencé, ça fait déjà une bonne année, mais vous êtes seulement encore à Kinshasa. Vous pensez qu'il y a des agents de voyage et des compagnies aériennes?
Oui, oui, moi-même, je dois me déplacer pour l'Est et tout ça.
Oui.
De là, je vais aller au Katanga, au Grand Katanga et partout au reste. C'est-à-dire, il y a aussi, nous avons des provinces, c'est-à-dire, nous faisons de sorte que nous puissions maximiser, capitaliser tout ce qui peut être unité de production.
Ah, ça c'est très bien.
En termes quantitatifs, et pouvoir apporter la qualité pour améliorer naturellement cette bonne gouvernance.
Donc vous êtes, vous avez dit, c'est un processus, hein, cette numérisation. Vous êtes maintenant au niveau des agences de voyage à Kinshasa et les compagnies aériennes. D'après vous, ça marche déjà. Et maintenant, pour ce qui est des sites touristiques, vous pensez que ça va attendre longtemps?
Vous savez, tout ça, ça fait partie des ressources.
Oui.
Que ce soit les sites touristiques, que ce soit les agences de voyage, les hôtels, la somme fait partie de ce qu'on appelle les ressources touristiques. Et ça fait partie de revenus pour le tourisme. Rien ne sera laissé au hasard. Tout doit être maximisé, capitalisé. C'est pourquoi je vous avais dit, c'est un mode de gestion rationnel, efficiente, efficace, nous ramenant à une collecte maximale de satisfaction ou de recettes, de la redevance. Donc rien ne sera laissé au hasard. On doit tout suivre et on veille sur ça.
Voilà, on va s'arrêter par là, Monsieur Thomas Avula Mombo. Oui, vous avez quelque chose à ajouter rapidement?
Oui, si vous le permettez, nous demandons naturellement à tous les opérateurs du secteur de venir s'inscrire à la plateforme de manière à ce qu'ils puissent bénéficier des avantages liés à la numérisation. Puisque quand on est en dehors de la plateforme, on va vivre les tracasseries, on va vivre tout ce que nous avons déploré. Il est important qu'ils viennent s'inscrire dans la plateforme pour bénéficier des avantages de la numérisation.
Merci beaucoup, Monsieur Thomas Avula Mombo, LP Mengongo. Vous étiez donc notre invité dans ce magazine Okapi Service pour parler de l'importance de la numérisation du secteur du tourisme en RDC. C'est un plaisir de vous avoir dans nos studios. On espère vous retrouver prochainement.
Merci, Marcel.